Chapitre 16. Le docteur Savard revenait de sa clinique lorsqu'on lui remit la carte d'un visiteur accompagné d'une lettre. Le nom lithographié sur la carte, inconnu à Savard, prenait pourtant une signification intéressante à cause de l'adresse qui le suivait, Château de Grand Aigle. Ce n'est pas là une carte domestique. Le préparateur est mort. Il regarda la lettre et ne l'ouvrit pas tout de suite. Il aimait à exercer sa divination. Et s'il n'était pas mort? Enfin, il décacheta l'enveloppe et lut. Monsieur Charles Gourlande est le préparateur, ou plutôt le collaborateur, dont je vous ai parlé lors de votre visite. À ce moment, il avait disparu, et par erreur, on l'avait rayé du nombre des vivants. Il pourra vous renseigner infiniment mieux que je ne le pourrais moi-même. De plus, il sait exactement quelles sont les découvertes que mon oncle voulait cacher aux hommes, parce qu'il les jugeait néfastes, sinon pour toujours, du moins pour notre génération et la suivante. Vous pouvez faire confiance, monsieur Charles Gourlande. Il n'existe pas de plus honnête homme. Veuillez croire, monsieur, à mon sincère dévouement, Abel Grand Aigle. Savard relut la lettre. Des découvertes néfastes, mais vais-je vraiment apprendre quelque chose? Il haussa les bras, du geste qui exprime l'incertitude, et ordonna d'introduire Charles Gourlande. C'était presque un géant. Au-dessus d'épaules massives et sèches, il montrait un visage en losange, semé de poils tabac, mais aggloméré. Des mâchoires lourdes bossuaient les lèvres. Les yeux vastes et creux décelaient la nyctalopie. « Je vous remercie d'être venu, » fit Savard en lui tendant la main. L'autre avança un bras encore tout ankylosé par de récentes blessures. Il eut une courte pause durant laquelle Savard et Charles Gourlande s'observaient anxieusement. « Monsieur, » dit enfin le dernier, « je ne sais ce que vous désirez savoir, mais comme vous l'apprend sans doute la lettre de M. Abel de Grand Aigle, mes confidences seront limitées par des promesses formelles et inconditionnelles que j'ai faites à mon maître. Sa mort ne me délie point. Mais est-il donc vraiment mort? Aucun doute n'est possible. On a retrouvé ses restes ensevelis sous les ruines. Vous connaissiez, je crois, tous ses secrets. Enfin, je veux dire, ses secrets de laboratoire. Pas tous. Il y a quelques formules essentielles, oui, quelques expériences capitales qu'il a tenues cachées, même pour moi. Mon maître était certainement le plus puissant génie scientifique et de beaucoup qui est paru sur la Terre. Un Faraday, un Ampère, un Carnot, un Maxwell, un Curie, si grand soit-il, ne saurait lui être comparé. Un éclair de mauvaise humeur traversa Savard. Il discerna que c'était un mélange d'indignation, de jalousie et de dédain. Mais il s'exerçait depuis trop longtemps l'objectivisme pour qu'un tel sentiment ne s'éteignît pas aussitôt. « D'ailleurs, dit-il avec une ironie qui s'adressait à soi-même, il est mort donc. » Il sourit, et ce sourire signifiait que le scepticisme remplaçait la jalousie. « Ne me croyez pas, » fit Gourlande, qui sourit à son tour. « C'est trop naturel, cela n'a aucune importance. Revenons à notre sujet. Que désirez-vous savoir ?»« Je voudrais, » répondit le neurologue avec une nuance d'hésitation, « connaître la nature des découvertes de M. de Grand Aigle. » Et leurs résultats positifs, je veux dire leur réalisation. Oh, ce n'est pas la curiosité qui me pousse. Gourlande pencha le front, songeur, puis Oh, vous ne vous souvenez peut-être pas exactement de l'objet de ses premiers travaux. Bon, exactement non. Il s'agissait, je crois, de polarisation. Mais mon maître précisait d'une part les théories de la polarisation rotatoire, et d'autre part, il créait en quelque sorte la polarisation mécanique, mais pour des systèmes circulaires ou pseudo-circulaires seulement. Dans sa dernière note, restée incomprise jusqu'à ce jour, il donnait une théorie sur la transformation des ondes transversales en ondes longitudinales et réciproquement. À partir de ce moment, il cessa de communiquer avec les sociétés aussi bien qu'avec les personnalités savantes. Il commençait à devancer de trop loin nos contemporains. Ses découvertes se multipliaient, de plus en plus profondes et de plus en plus diverses. Je puis vous révéler ses recherches sur la polarisation électrique, non pas appliquées à la polarité négative et positive, mais à la polarisation de chacun des électrons, ou si vous préférez, des atomes électriques. Cette découverte l'a mené au phénomène de la préélectricité. Le résultat le plus étonnant de ses recherches fut la bipartition des atomes. Savard eut un grand sursaut et ses tempes s'enflèrent. Oh, il ne faut pas que le terme prête à équivoque, continua Gourlande. La bipartition des atomes est un phénomène absolument différent de la bipartition des cellules animales. Dans celle-ci, il se forme deux pôles noyaux qui président à la formation de deux cellules nouvelles, en tout semblables à la cellule mère. Dans la bifurcation des atomes, il y a aussi formation de deux atomes complets, mais chacun de masse réduite et formé d'éléments préatomiques orientés, dont chaque nouvel atome a angle droit avec les éléments préatomiques de l'autre. On obtient ainsi deux systèmes de corps simples, par exemple deux hydrogènes, deux oxygènes, et par suite deux espèces d'eau ordinaire et deux espèces d'eau oxygénée. Pour un même volume, ces hydrogènes, ces oxygènes, ces eaux ont la moitié de la masse et conséquemment du poids des hydrogènes, des oxygènes et des eaux ordinaires. Ils ont aussi des propriétés lumineuses et électriques particulières. Savard s'était levé. Une émotion violente bouleversait ses prunelles. Un jet de lumière l'éblouissait jusqu'au tréfonds de l'inconscient. Il ne put retenir un cri. Mais c'est prodigieux! Car subitement, il n'avait plus aucun doute. Les paroles de Gourlande s'ajustaient fatalement à l'énigme des givreuses. J'ose présumer, murmura le neurologue d'une voix rauque, que Grand Aigle a étendu ses découvertes à la matière organisée. Gourlande se taisait. Son regard nyctalope, étrangement lointain, semblait venir vers Savard du fond d'une caverne. Après une longue pause, il reprit. Oui, mais là doivent s'arrêter mes confidences. Les formules que je pourrais vous communiquer ne vont pas même aussi loin. Elles s'arrêtent au phénomène préélectrique. Pour obtenir la bipartition des atomes, il faut résoudre des problèmes qui, je crois, ne seront pas résolus avant 2 ou 3 siècles. Car un homme comme mon maître ne se produira peut-être jamais plus, comme il ne s'était jamais produit dans le passé. J'en suis sûr, cria Savard avec une extrême agitation. Je suis sûr que Grand Aigle avait appliqué la bipartition aux êtres vivants. Sûr? Dit Guirlande d'une voix assombrie. Sûr? Absolument sûr. Il demeurait face à face, les yeux fixes et tout pâle. Monsieur, fit doucement le visiteur, j'ai répondu à vos questions, autant que me le permet l'engagement sacré que j'ai pris avec mon maître. Vous ne refuserez pas à votre tour de me répondre. Pourquoi vous intéressez-vous à ces découvertes? Elles ne ressortissent pas à vos propres travaux. Eh bien, je vous le dirai, mais auparavant, je désire faire en votre présence une vérification décisive. Pouvez-vous me consacrer une demi-heure? Oh, je suis libre tout le jour. Savard se rendit en automobile au château de Givreuse, où il demanda à voir Pierre. C'était vers l'heure du déjeuner. Le jeune homme était au jardin. Voulez-vous me confier pendant 1 ou 2 heures vos 2 livrets individuels, car je suppose qu'ils sont au château? Demanda le neurologue. De sa part, tout semblait normal. Pierre alla prendre les livrets sans faire aucune question, sachant que s'il avait quelque chose à dire, Savard le dirait spontanément. Le docteur retourna chez lui, fouilla dans une armoire, exécuta rapidement quelques expériences à la loupe, fit 2 ou 3 pesées sur une petite balance de précision et alla retrouver Charles Gourlande. Celui-ci attendait en feuilletant une revue. Il n'avait pas repris son calme. Son visage dénonçait une manière d'inquiétude. Excusez-moi, dit Savard, si je vous demande de garder le secret sur ce qui va se passer ici et sur ce que je vais vous dire. Gourlande eut un sourire triste. Oh, surtout s'il n'engage pas mon honneur et mon honnêteté, je vous promets le silence. Savard sentit que ce n'était pas de vaines paroles. Il montra un des 2 livrets des Givreuses et un autre livret qu'il avait retiré de l'armoire. Matériellement, dit-il, je veux dire en ne tenant compte que du papier, ces 2 objets apparaissent à peu près semblables. Mais si je ne me trompe pas dans mes conjectures, ils doivent différer profondément. L'un des 2 est polarisé. L'œil nocturne de Gourlande parut s'emplir d'une ombre plus épaisse. Il considéra intensément les 2 livrets. Puis d'un ton de défi, mais pourquoi serait-il polarisé? Mais regardez les feuilles par transparence et comparez. On perçoit une indéfinissable différence entre les feuilles des 2 livrets. À la loupe, c'est plus sensible. Pour le livret Givreuse, on a le sentiment que la lumière passe mieux dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur. Et pour l'autre livret, rien de semblable. Enfin, les poids diffèrent d'une manière surprenante. Savard attira une petite balance et, pesant l'un après l'autre les documents, il constata: à peu de choses près, le livret banal pèse le double du livret Givreuse. Et ce n'est pas tout. Le neurologue tira de sa poche le 2e livret Givreuse et le superposant au premier sur la balance. Bien, eux deux, ils font le poids d'un seul livret. Et si vous les comparez à la loupe, les transparences apparentes sont égales dans les 2 documents, mais dans des directions perpendiculaires. Gourlande vérifiait avec soin chacune des assertions de Savard. C'est exact, acquiesça-t-il, mais où voulez-vous en venir? Vous le devinez, répondit doucement le médecin. J'affirme que ces 2 livrets proviennent d'un seul livret divisé par les méthodes de Grand Aigle. Bon, ce n'est pas possible. Et cela ne dépasse pas, comme fait expérimental, les confidences que je suis autorisé à faire. La fièvre avait saisi Savard. Il cria avec force. Eh bien, le livret appartenait à un soldat qui le portait sur lui au moment de l'expérience. Un grelottement secoua Gourlande. Vit-il encore? Oui, il vit, ils vivent au pluriel. Une sorte de joie craintive parut dans le regard nyctalope. Vous saviez, fit impérieusement Savard. Charles Gourlande haussa les sourcils. Mais comprenez-vous, dit-il à voix basse, pourquoi mon maître a voulu que ces expériences restent secrètes? Comprenez-vous à quel point elles pouvaient être dangereuses dans la période humaine, si barbare encore où nous vivons? Oh, surtout ne l'accusez pas, il est innocent. Il n'a pas voulu cette effrayante aventure. La note que j'ai retrouvée est brève, mais nette. C'est par hasard que le soldat blessé est arrivé dans le laboratoire. Et c'est accidentellement qu'il s'est évanoui à l'endroit précis où étaient concentrées les énergies polarisantes. Mon maître était lui aussi blessé, sans conscience. Lorsqu'il est revenu à lui, la métamorphose était accomplie. Il fuyait. Et mon maître a encore eu le temps d'écrire la note. Ensuite, le laboratoire et lui-même ont été détruits. Alors, en somme, vous saviez. Oui, je savais ce que m'a appris la note, découverte par moi récemment, après mon retour d'Allemagne où, très malade et dangereusement blessé, j'ai passé de longs mois. À mon retour, ma première visite a été pour Grand Aigle. Et comme on a dû vous le dire, le laboratoire était anéanti. C'est ailleurs que j'ai retrouvé le dernier carnet de mon maître. La note n'était au reste compréhensible que pour moi seul. Je dois dire que j'ai eu des doutes sur la réalité de l'événement. J'ai supposé que mon maître avait une sorte d'ébranlement nerveux, avec délire et hallucination. Il était naturel que son hallucination portât sur le sujet qui l'avait préoccupé jour et nuit durant tant d'années. Mais alors vous jugiez l'expérience impossible. Dans ces conditions, oui. Jusqu'alors, mon maître n'avait obtenu des résultats parfaits qu'avec les organismes rudimentaires. La bipartition réussissait bien jusqu'aux batraciens, et particulièrement avec les tritons. Le dédoublement des tritons donnait en général des individus résistants qui se complétaient en quelques semaines. La plupart du temps, les grenouilles nouvellement formées n'étaient pas viables. Et mon maître a dédoublé cependant des taupes, des souris, même des oiseaux. Mais ils ne survivaient pas à l'expérience ou ne survivaient que pendant quelques heures. Il est remarquable, et ceci vous intéresse, que les mois de juillet et d'août 1914 furent extraordinairement favorables aux expériences. Pendant cette période, plusieurs mammifères dédoublés survécurent assez longtemps. Mon maître affirmait que la Terre traversait un milieu interstellaire, particulièrement riche en énergie préélectrique. Il le démontrait par des expériences sur les transformations atomiques. Quoi qu'il en soit, ces découvertes se multiplièrent, et il se croyait sur le point de rendre le dédoublement inoffensif pour les organismes supérieurs, lorsque la guerre l'emporta. Charles Gourland ensevelit son visage dans ses mains. Un âpre sanglot souleva sa poitrine. Il murmura d'une voix presque éteinte: Quand j'ai revu Monsieur Abel de Grand Aigle, j'ai été saisi d'inquiétude. Votre démarche auprès de lui ne pouvait être sans motif. J'ai dû me demander s'il ne se rapportait pas à ce que j'avais cru être une hallucination de mon maître. À ce moment, je pensais que l'aventure avait dû se terminer par la mort de l'homme double. Et je ne sais pas encore si. Gourland le fixait sur le neurologue des yeux suppliants. Mais non seulement ils vivent, dit ce dernier, mais après une période de torpeur, ils n'ont cessé de se développer. Actuellement, ils ont toutes les apparences des hommes normaux. Ah, c'est bien plus que j'osais espérer. Sans doute le jour de leur métamorphose, les circonstances éthériques furent plus favorables que jamais, et elles continuèrent à être excellentes pendant les mois qui suivirent. Ah, si mon maître avait vécu! Il nous aurait tous sauvés, car il venait de se résigner à travailler pour la guerre. Il préparait des radiations qui eussent engourdi, immobilisé des millions d'ennemis. Et pourquoi est-il demeuré à Grand Aigle? Gourland haussa les épaules. Oh, il avait fait de grand aigle un immense accumulateur d'énergie, qui dépendait plus encore de l'endroit que de l'outillage. Il aurait fallu des années pour refaire une telle œuvre. Il eut un profond silence. Puis Savard constata avec une sorte de satisfaction sévère. L'aventure n'était donc pas surnaturelle, mais elle était surhumaine. Mon maître ne fut pas seulement le plus grand des hommes, il fut à lui seul une humanité nouvelle. Épilogue. Thérèse marchait avec Philippe à l'ombre des hêtres rouges. C'était le jour du départ. Dans peu d'heures, Madame de Losange se mènerait sur le vaste Atlantique. Une lourde détresse et d'amers regrets étaient en elle. Par intervalles, elle levait un visage plein de fièvre vers Philippe. Lui, plus triste encore, était ravagé par son amour comme par une maladie. Un étonnement hagard passait en rafale. Comment était-il possible qu'il désirât avec cette force neuve la femme qui avait été sa maîtresse? Parce qu'elle le croyait un autre homme, voilà qu'elle-même devenait une autre femme. Et même, en un sens, elle se montrait plus énigmatique que si véritablement elle avait été une inconnue. Il n'essayait plus de comprendre. Son imagination était trop vive, mais il sentait que seul parmi les humains, il pouvait percevoir une aussi fantastique métamorphose. De telles sensations étaient étrangères à Pierre, ses rapports avec les êtres familiers demeurant sinon identiques, du moins semblables. Une sonnerie lente et vieillotte retentit à une tour voisine. Oh, dans peu de temps, nous ne serons plus seuls, chuchota Thérèse. Subitement, elle prit le bras de Philippe. Elle demanda d'un ton de voix véhémente. Pardonnez-moi, Philippe, je crains de vous avoir fait beaucoup souffrir et de vous avoir paru bien cruel. La main si vivante tremblait sur le poignet de Philippe. Je ne pouvais agir autrement. Puisque vous avez voulu l'épreuve, c'est vous qui êtes venu et que vous ne me déplaisiez point. Que faire? L'amour n'est pas un jeu pour moi. Je l'ai toujours redouté comme la pire misère et souhaité comme la plus haute beauté. Plus je vis, plus je veux qu'il soit profond et durable. Alors, n'est-ce pas, je devais vous décourager tout de suite ou vous soumettre à une dure attente. Je n'ai pu vous décourager. Vous m'étiez cher, Philippe. Vous m'inventiez le plus extraordinaire mélange de passé et d'avenir. Il fallait du temps. Et la certitude que votre propre amour n'était pas un caprice. Philippe, êtes-vous bien sûr de m'aimer? Auriez-vous la force de m'attendre plus de 6 mois, 2 saisons? Sinon, est-ce la peine? La voix passionnée envahissait Philippe, comme le vent d'équinoxe envahit les sylves. Il répondit violemment. Mais je vous aime, Thérèse. De l'amour même que vous voulez, patient et résigné. Ils étaient au milieu de la futaie. On entendait que le fruit léger des ramures. Un jais fuyait dans une prairie aérienne. L'odeur des végétaux se répandait comme une émanation de la vie éternelle. Elle soupira. Elle abandonna sa tête sur l'épaule du jeune homme. Et fermant à demi les paupières. Il y a déjà quelques jours que je vous aime, mais il ne fallait pas le dire, j'avais peur. Il y a tant d'incertitudes entre les âmes, je voulais être sûr que vous m'attendriez. Et elle eut son sourire ironique. Maintenant vous m'attendrez. Il se pencha, les lèvres d'écarlate ne se dérobaient plus. Leurs bouches échangèrent une promesse dévorante. Oh, voilà mes amis, dit-elle. Elle s'était dégagée. Elle lui jeta un long regard où il y avait de la victoire et de la prière. Il ne regretta pas de ne pas l'avoir possédée. Il l'attendrait comme on attend le bonheur. Le surlendemain, Valentine, Pierre et Philippe se promenaient au pied des falaises. Quoi qu'on fût en été, le jour ressemblait bizarrement à ce jour d'hiver mou et charmant où de longs nuages se poursuivaient au-dessus des flots intarissables. Comme alors, des barques sillaient au loin, très précises, pourtant brumeuses. Des frégates planaient sous la nue. La mer avait le même battement ample et régulier, le battement d'une poitrine incommensurable. Il n'y avait pas la même inquiétude dans les âmes. Philippe était dans sa force, la destinée ne l'étouffait plus. Son espérance avait l'aspect d'une certitude. Valentine oubliait ses soirs sinistres où les deux hommes lui apparaissaient comme des revenants. Elle ne les confondait plus. Le regard de Philippe rappelait à peine le regard de Pierre. Elle cessait d'y découvrir l'amour qui rendait tout choix impossible. Pierre était seul près d'elle. Elle allait dans le vent délicieux. Il lui contait la légende hasardeuse des créatures. Il donnait à ses jours la nuance des églantines. La jeune bouche innocente avait l'attrait des fleurs rouges et l'éclat des perles encore trempées d'eau marine. Comme au jour d'hiver, Pierre se trouva seul avec Valentine dans le pays des pierres taillées. Le flux commençait à les assiéger. Il arrivait dans les couloirs avec sa plainte humide. « Valentine !» murmura le jeune homme. Elle baissa la tête, très émue. Elle se rappelait les deux épisodes d'âme mêlés au site. Mais le second s'effaçait. C'est l'autre qui se mêlait au battement des flots. « Voulez-vous de ma vie, de toute ma vie ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Sa robe dansait dans le vent. Une éclatante mèche de cheveux tourbillonnait sur sa tempe. Elle goûta la joie de tenir en suspens son destin et celui de Pierre. Puis, inclinant la tête avec un sourire, elle détermina le futur. Quand ils revinrent au haut des falaises, ils aperçurent, près d'un calvaire, le docteur Savard qui marchait à côté d'un homme de stature géante. Savard s'arrêta. Son compagnon épiait les jeunes gens avec une avidité singulière. Tous cinq suivirent la sente étroite entre les ajoncs. Le neurologue, attirant Philippe à l'écart, demanda « Le sort s'arrange? Vous êtes résigné ?»« Oh, je n'ai plus besoin de l'être. » Savard montra à Pierre et Valentine. « Ni eux? Oh, ni eux !» Savard eut un vague haussement d'épaule et rejoignit son compagnon. Le château de Givreuse se profila sur les nuages. Tandis que Valentine, Pierre et Philippe continuaient leur route, le neurologue s'arrêtait avec son compagnon devant la mer retentissante. L'homme de haute stature, Charles de Gourlonne, dit « Oh, je suis content de les avoir vus. Ils semblent robustes. »« Oh, ils le sont. » Tout annonce qu'ils sont reconstruits pour une longue vie. Mais d'où est-ce le contraire? Comment ont-ils résisté à la métamorphose? Elle est en somme foudroyante. Or, dans les organismes terrestres, tout est progressif, sauf la mort. Et encore, lorsque la fin n'est pas subite, les agonies ont une évolution graduée. Le docteur Barbillon a décrit avec un remarquable talent la suite des morts qui précède la mort réelle. Nous perdons d'abord l'intelligence, la mémoire, la volonté, tout ce qui constitue la conscience. Sûr, interrompit vivement Gourlande. Ce serait très consolant. Mais je n'ai aucun doute. Au moment où l'agonie commence, nous ne savons plus ce qui se passe. Ce bas dans le moribond respire, il s'agite, son cœur bat. Il l'ignore. La moelle continue à régir le mouvement. Elle trépasse à son tour. On peut alors nous brûler la peau sans que les muscles réagissent. Cependant, nous respirons toujours, mais notre respiration est maladroite, en quelque sorte renversée. Elle ne s'éteint qu'après ce bruit qui a effaré les hommes de tout temps, ce bruit doux et prolongé qu'est le dernier souffle. Et beaucoup d'hommes, même supérieurs, croient que la conscience s'éteint véritablement qu'avec ce souffle. Oh, ce moment qui n'est pas du tout le moment suprême, comme le croit aussi tant d'hommes intelligents, à ce moment il n'y a plus la moindre trace de conscience. Mais pourquoi le cœur bat encore du battement qu'il avait à l'aube de la vie dans le fœtus? Quand le cœur se tait, la mort générale est consommée, mais la série des morts locales va durer longtemps encore. Alors en somme, nous mourrions toujours du haut en bas. Oui, selon l'heureuse expression de Barbillon, nous quittons le soir nos vêtements dans un ordre inverse de celui qui a présidé à notre toilette matinale. Mais il en va de même pour la vie. Gourlande demeura une minute rêveur, puis, dans le cas de Givreuse, la division a dû ressembler à une mort foudroyante, mais à une mort d'ensemble. Où il n'y aurait rien, aucun passage régulier du conscient à l'inconscient, et moins encore des facultés supérieures aux facultés inférieures. Ah, vous le pensez, parce que ce ne sont pas les organes qui ont subi la division, mais les éléments infinitésimaux de la matière. Toutefois, la division a-t-elle pu commencer préférablement par certains éléments? Oui, peut-être par des éléments inférieurs. Ce sont en effet les groupes moléculaires les moins complexes qui devraient s'être dédoublés d'abord. Par suite, le phénomène eût été une sorte de mort, avec une agonie en sens inverse des agonies ordinaires. Tout ceci ne donne aucune idée de l'événement. Le dédoublement des organismes est fort rapide, il débute par un évanouissement. Il y a des raisons pour croire qu'au moment décisif, il s'agit d'une véritable explosion atomique de tout l'être. Oh, je la compare grossièrement, pour éclairer un peu ma lanterne, à l'explosion des atomes de radium se divisant en atomes de niton et en atomes d'hélium. Seulement, le phénomène est beaucoup plus délicat. Je ne suis pas compétent, grommela Savard. En tout cas, la reconstitution n'a rien eu de foudroyant, quoiqu'elle ait été fort rapide. Pierre et Philippe ont mis de longs mois à reprendre approximativement leur densité. Si l'on s'en réfère à la nutrition, à la croissance normale, le poids qu'ils ont regagné est prodigieux. Ce phénomène n'en fut pas moins graduel. Il y a des êtres inférieurs qui doublent bien plus promptement leur masse et leur volume. Oh, on peut faire deux hypothèses. Ou bien chaque atome se reconstitue peu à peu, ou bien chaque atome se reformant avec la rapidité des actions radioactives, il y a eu une suite indéfinie de reconstitution. Dans les deux cas, tout se passe comme s'il y avait évolution pour l'ensemble de l'individu. Et quelle hypothèse préférez-vous? La seconde. Elle est plus conforme à ce que nous savons des actions atomiques et préatomiques. Ils marchèrent quelque temps sans rien dire, puis Gourlande demanda: Les Givreuses savent-ils quelque chose de ce que je vous ai révélé? Rien, il vaut mieux qu'ils ignorent. Leur vie devient régulière. J'ai pu régler la destinée de celui qui se nomme Pierre-Philippe à l'aide de papiers qui me furent laissés par un pauvre homme mort subitement dans ma clinique. J'ai attribué ces papiers au second givreuse, sans faire grief à aucune créature. De plus, j'adopterai Philippe. J'ai pour lui une affection bizarre et son avenir me captive. Le vent s'enflait sur l'Atlantique. Le flux rugissait, plein de la fureur mystérieuse des éléments. La vie, soupira Savard. Qu'est-ce que votre maître pensait de la vie? Elle le désespérait. Il l'interrogeait par des expériences prodigieuses, mais elle ne se livrait point. Elle demeurait pour lui la même énigme que pour les humbles femmes prosternées dans la pénombre des églises. Néanmoins, il croyait qu'elle avait sa source profonde dans les espaces nébulaires. La vie terrestre n'est qu'un moment. Elle préside à de mystérieuses métamorphoses individuelles ou générales. Individuelles ou générales, exclama Savard. Mais si elles sont individuelles, nous ne finissons pas ici. Votre maître croyait donc à l'immortalité? Quoi? Non, il ne le croyait pas. Il se bornait à des hypothèses. Et d'abord, il posait que l'être, quel qu'il soit, est multiple. L'unité, telle que l'ont de tout temps conçu les spiritualismes, ne lui apparaissait nulle part. Malgré cela, il imaginait des vies immortelles. Des âmes? Oh, pas exactement. Dans l'homme, par exemple, il y aurait plusieurs sortes de structures. Les premières formeraient un être composé d'êtres, donc sans unité essentielle, mais individualisé et partiellement indissoluble. Les autres formeraient un corps plus ou moins coordonné, mais soumis à une dissolution interminante pendant la vie terrestre et une dissolution totale après la mort. Au contraire, l'être relativement indissoluble ne perdrait jamais qu'une part infime de ses éléments, et même s'accroîtrait avec une lenteur infinie, si j'ose ainsi dire. Mais comment l'entendez-vous? L'accroissement très lent serait-il compensé par les déperditions très lentes? En partie, l'accroissement dépasserait la déperdition. Ah, donc le développement d'un être pourrait tendre vers l'infini. Non, pas plus que certaines séries mathématiques, qui croissent sans limite mais ne peuvent dépasser une somme déterminée. L'indissolubilité relative conçue par mon maître était au reste d'une nature particulière. Les différents êtres qui composent l'être indestructible pourraient être plus ou moins éloignés les uns des autres, sans cesser d'être étroitement unifié. Par suite, l'être total subirait tantôt des dilatations, tantôt des contractions. Il aurait une étendue variable selon les milieux où il évolue. Je comprends mal, fit Savard. L'être total et les êtres qui le composent, sont-ils matériels? Selon mon maître, la matière, l'énergie, l'esprit ne seraient que des conceptions humaines. Oh, il n'admettait que des existences. Oh, je tâcherai de vous expliquer cela plus tard. Soit, mais après la mort, que devient la partie relativement indissoluble de l'homme? Elle retourne dans le monde nébulaire. Je suppose qu'elle peut, au cours de son évolution éternelle, reformer souvent des êtres analogues aux êtres terrestres. Mais comment concilier cela avec le dédoublement de Pierre de Givreuse? Une part de Pierre était indissoluble, par définition. Aussi bien, si les hypothèses de mon maître expriment une réalité, cette part n'a pas pu se diviser. Elle s'est coordonnée avec un décor nouveau. Un autre être a rejoint le deuxième corps. Un autre être, exclama Savard avec une nuance d'ironie. Mais par quel prodige se trouvait-il à Grande-Règle à l'instant même du dédoublement? Bon, je ne vois là aucune difficulté. Si l'hypothèse de mon maître, ou même l'antique hypothèse des esprits, est admise dans son ensemble. À toute genèse, et je n'ai pas besoin de faire remarquer de quels événements capricieux dépendent en apparence les genèses humaines. À toute genèse, il faut bien qu'un être nébulaire soit présent. On suppose qu'il est averti par avance, et cela ne me semble guère plus mystérieux que la propagation de la lumière ou de la gravitation. Mais de plus, chacun des deux hommes se croit Pierre de Givreuse. Sur la terre, quelle que soit l'origine des êtres, nous n'avons que des souvenirs terrestres. Celui qui n'était pas Pierre de Givreuse a trouvé ses souvenirs tout formés. Un ouragan chassait les troupeaux innombrables de la mer Océane, et les oiseaux des tempêtes, avec des clameurs rauques, s'enivraient du déchaînement des météores. « L'homme ne saura jamais !» murmura Savard. « Oh, s'il avait dû savoir !» fit doucement Gourlande. « Tout lui aurait été révélé à son aurore !»